historique. Un vin et nez dans le 17 night. You're the king of infinito. You're the queen of all my god of thought. You're the king of infinito. You're the queen of all my god of thought. Spanish weeks in my disco casino.
Full of On est de retour en ondes à l'émission La Rage du Peuple sur les ondes de CFLX 95.5.
Mais qu'est-ce que venons-nous d'écouter?
On vient d'écouter une chanson de Gustavo Santaolalla, ou bref, un nom...
Gustavo Santaolalla.
Santaolalla. Donc, on est de retour pour aborder un sujet, comme je disais, qui est de mise à l'émission de radio aujourd'hui. C'est la violence policière, puisque oui, elle existe, puis il faut la dénoncer. C'est pas parce que la police est donc bien belle, puis elle a donc bien un gros flingue, qu'il faut hésiter à dénoncer ces agissements, surtout quand ceux-ci sont racistes, sexistes, et bien plus encore.
Homophobe ou transphobique.
Oui, il ne faut pas hésiter à le dénoncer. Et puis nous, puisque nous sommes contre toute forme d'autorité, on remet bien sûr le rôle de la police en question. Et là, on s'entend ici, il faut préciser tout de suite, on ne remet pas en cause une espèce de rôle régulateur que la police doit jouer et qu'elle le fait, entre autres, très bien la part du temps. Pour ce qui est d'une agression, de mener une enquête ou d'intervenir, je veux dire, c'est tout à fait normal. Seulement, ce corps de la police, en général... Elle a un rôle très précis, puis c'est de maintenir le pouvoir en place, le maintenir, le conserver, le protéger et aussi prévenir toute forme d'attaque qui pourrait y arriver. Et puis, un autre problème, c'est que la police peut... je vais juste faire une pause, un petit moment. J'ai un peu mal à la gorge.
Mal à la gorge.
Oui, exactement. On va revenir, ça ne sera pas très long.
Là où la vie commence, arrête, ne vis pas, où tu en mouriras. Imagine un champ de provision, où le doute sans doute semera foison. Nos vies coûte que coûte, nos rêves de civilisation. Civili, civila, civilisation. Si la vie, si Lisa, Lisa avait raison. C'est pas dans les chansons, ni dans l'eau de mon vin. On fera de demain des civilisations. On fera du raffu, du bruit et du patin. Et la main dans la main, on chantera dans la rue. On fera de demain ce qu'on aura bien voulu. Si c'est pas défendu de chanter dans la rue. Sinon j'en mourira, j'imagine des terres en fusion, où l'on goûte à goutte des ciels à foison, et nos vies coûte que coûte pour la révolution.
CFLX
FM
95,5.
CFLX.qc.ca.
Désolé, on est de retour. J'avais un petit mal de gorge qui persiste, mais je crois que ça va être bon cette fois-ci. Donc, on va revenir sur cette chronique sur les violences policières et sur aussi également le rôle que joue la police, son rôle qui est bien sûr de maintenir le pouvoir en place. Mais on va voir à travers l'histoire comment la police a peut-être apparu à d'autres époques, dans d'autres civilisations, mais aussi comment elle est née, la police moderne, celle qu'on connaît. Donc, il y en a eu plusieurs formes à travers l'histoire. Une chose qu'il y avait dans la plupart des civilisations de l'Antiquité de commun aux structures policières, c'est qu'elle était assumée presque directement par le pouvoir d'un endroit. Donc, admettons, le tyran de telle ville grecque avait le droit de déterminer les accusations et la culpabilité de quelqu'un sans arbitrairement, sans avoir nécessairement eu toutes les preuves ou quoi que ce soit. Il le décidait tout simplement. Il pouvait disposer d'une force policière, si on veut, quoique on ne pourrait pas nécessairement appeler ça police, quotidienne, je veux dire à tout moment. Et puis, par la suite, dans le fond, il faut aussi dire qu'à l'Antiquité, puisque le rapport de production était esclavagiste, c'est-à-dire que le travail était produit par des esclaves, propriété de riches personnes citoyennes, souvent, la police était exécutée par des esclaves. Donc, il n'y a rien de nouveau, comme au Moyen-Âge, c'était assumé par des serfs. Et puis, à l'époque moderne, c'est des salariés. Donc, il n'y a pas eu de changement. Ceux qui exercent le pouvoir répressif, ceux qui sont dans le fond le bras armé, c'est souvent des gens qui sont issus de la même classe sociale que ceux qui se font réprimer. Seulement ceux qui donnent les ordres et à qui on doit rendre des comptes sont généralement, eux, d'une autre classe sociale, avec des intérêts, comme on dit généralement, diamétralement opposés, ainsi de suite. Donc, pour continuer, dans la Rome antique, lorsque la ville de Rome va dépasser le million d'hommes, ça c'est sous le règne d'Auguste, je crois que c'est en moins 27 ou en 27, bref, dans ces eaux-là, la ville est découpée en environ 14 districts qui vont être protégés par 7 brigades de 1000 hommes chacune. Seulement, ils sont déployés seulement qu'en cas de besoin. Donc, Rome avait, si on veut, et a eu jusqu'alors une certaine régulation pour ce qui est des... bien sûr, les crimes continuent d'être commis. Seulement, c'était pas nécessairement un corps policier qui assumait la protection des citoyens, mais peut-être les citoyens eux-mêmes. Puis, bien sûr, on pourrait dire que c'est entre la police et l'armée, c'est la garde prétorienne romaine qui est assez fameuse dans l'histoire, qui était une unité constituée d'hommes d'élite de l'armée romaine qui était utilisée comme garde rapprochée des gens du pouvoir. Donc, la garde prétorienne, son rôle, c'est, en cas de coup d'État, par exemple, d'assurer la protection d'un empereur ou d'un consul, ou etc. Seulement, cette force en est venue à acquérir tellement de prestige et de pouvoir qui intervenait directement dans le processus de succession de certains empereurs, notamment quand Galba va être tué. Ils auront désigné Otton comme étant son successeur. Et d'ailleurs, ils auront concouru au meurtre de Galba. Donc, il avait obtenu un certain pouvoir tel qu'il pouvait carrément intervenir dans les processus. Puis je suis convaincu que ça a été un peu la même histoire par le passé. Donc, durant le Moyen-Âge, la justice est intimement liée au seigneur qui, une fois de plus, décide des sentences, du verdict et a un corps policier qui lui obéit. On peut pas nécessairement parler d'un corps policier tel qu'on le connaît aujourd'hui, puisque généralement, ça va être uniquement des hommes de main qui obéissent au seigneur ou au propriétaire.
Mais c'est l'idée globale d'un contrôle d'une élite sur l'ensemble, là, pour maintenir un système économique et politique.
Néanmoins, ça va être vraiment avec l'émergence de l'État durant la période du Moyen-Âge que une idée plus concrète, plus familière de la police va apparaître. Donc, à Paris, c'est en 1254 la ville va se doter d'un corps de 25 policiers qui ont la charge de faire le guet la nuit aux portes de la ville. Et puis, ça sera donc, comme je disais, en 1700... donc, avec le règne de François Ier, c'est là qu'on identifie peut-être davantage l'émergence d'un État physique personnifiée, entre autres par le roi, pour centraliser les affaires du pays, puis pour amener, pour créer, comme je dis, une certaine bureaucratie d'État. Ça, c'est environ en 1515, François Ier. Mais ça va être en 1747-1748 que la police telle qu'on la connaît actuellement va naître juste avant la Révolution française. D'ailleurs, en 1789, cette police-là va disparaître puisqu'elle avait contribué à réprimer le mouvement révolutionnaire. Seulement peu de temps après, en 1790, les commissariats vont apparaître grâce à Bonaparte. Les commissariats qui sont, si on veut, le type de préfecture qui... ben, en fait, le type de police qui existe en France aujourd'hui. Donc, on identifierait davantage la Marine Police Forces de Londres ou encore la préfecture de Paris qui vont naître en 1800 comme étant l'ancêtre du corps policier moderne. Donc, 1800, on s'entend, c'est le début du 19e siècle, il y a à peine 200 ans. Donc, pour comprendre la police, il faut comprendre comment les différents pouvoirs se sont structurés aux différentes époques. Comme par exemple, lorsque le pouvoir était absolu, le corps chargé de faire la police, lui, était entièrement dévoué et obéissait à ses ordres ou aux ordres de ses subordonnés. Donc là, on s'entend que c'était plus facile de comprendre le rôle de la police comme étant, si on veut, le bras armé du pouvoir, plutôt que une force chargée de régler les problèmes, assurer la sécurité du public. C'était pas vraiment ça. C'est sûr qu'il allait intervenir comme tel pour s'assurer, bien sûr, qu'il n'y ait pas de débordement, puisque les débordements, bien sûr, mènent éventuellement à une période d'instabilité politique, mais était davantage là pour assurer que le pouvoir puisse s'exercer en bonne et due forme et sans obstacle. Donc, ça peut être, dans une certaine mesure aussi, s'assurer que le crime organisé ou, dans le fond, le crime, un marché parallèle, si on veut, interlope, ne se développe pas pour assurer, bien sûr, le monopole de la part du seigneur, du propriétaire ou peu importe le pouvoir du lieu, donc.
Oui, en lien avec ce que tu disais par rapport au pouvoir, je pense que c'est un des gros problèmes qu'il y a dans la police, c'est que les gens qui vont... qui rentrent dans les institutions, qui étudient en technique policière, ont souvent une grosse soif de pouvoir. Donc, c'est rare que c'est des gens qui vont là comme...
Ils leur enseignent aussi.
Hein. Oui,
ouais, ouais, ça, c'est une autre question, mais ça, c'est certain que dans les mœurs, puis dans l'enseignement, c'est une idée qui est très présente. Seulement, ça pourrait être bien de le rappeler, c'est pas eux les maîtres, ils servent leur maître. Mais on va continuer, à moins que tu voulais intervenir.
Mais je dirais qu'il n'y a pas juste le monde qui étudie en technique policière qui ont soif de pouvoir, mais aussi ceux-là qui étudient dans d'autres domaines, comme par exemple tous ceux-là qui aspirent en fait à devenir politicien ou à gravir les échelons. La seule affaire, c'est que je pense que c'est une forme plus agressive de pouvoir.
Puis peut-être pour mettre en relief davantage le rôle du pouvoir vis-à-vis ceux qui le servent, comme je disais un peu plus tôt, dans la période antique, lorsque le rapport de production était esclavagiste, on utilisait davantage des esclaves pour jouer le rôle de police ou le rôle de régulateur, parce que ceux-ci étaient facilement manipulables, entraînables, etc. Et alors que quand on est passé au féodalisme, c'était davantage des serfs qui étaient propriété du seigneur qui allaient jouer ce rôle, si on veut, le rôle d'homme de main du pouvoir en place. C'est jamais... puis aujourd'hui, c'est des salariés. Les policiers, c'est des salariés qui n'ont pas nécessairement... là, c'est sûr, le rapport de production a changé quand même beaucoup. Mais c'est pas... Les gens qui vont exercer dans la police sont des gens qui ne sont pas le pouvoir, mais qui le servent. Et souvent, j'imagine, inconsciemment. Donc, puis d'ailleurs... Aussitôt qu'on veut obtenir un rôle supérieur dans le corps policier, il faut avoir un certain rang social pour pouvoir l'obtenir, pas nécessairement d'être noble, mais comme dans la Rome antique, il fallait être membre de l'ordre équestre pour pouvoir obtenir une certaine rang dans l'armée. Puis on pourrait dire que c'est plus comme ça, néanmoins, s'il subsiste, c'est certain que quelqu'un issu d'une famille prestigieuse va facilement avoir des courbettes de la part de ses supérieurs et peut-être même des récompenses. Mais bon, donc encore une fois, le pouvoir se défend en utilisant les éléments de la classe qui lui est opposée. C'est pour ça que nous, en tant qu'anarchistes, on reproche souvent au pouvoir d'être les chiens de garde du pouvoir. puis qui sont dans le fond des gens qui combattent leur propre classe. Donc, comme je disais, lorsque le pouvoir s'est constitué en État, on désigne souvent François Ier comme étant cette incarnation-là. Celui-ci devait représenter le pouvoir, dans le fond, la violence, la violence qui était jusqu'alors à la portée de tous va être monopolisée de plus en plus par cet État-là qui va s'en faire l'unique détenteur. C'est entre autres pourquoi Max Weber, le fameux sociologue, disait de l'État que c'était le monopole de la violence légitime. Donc, si l'État en dispose désormais, c'est pour maintenir l'ordre, c'est pour maintenir son ordre. Puis, encore là, quand on parle d'ordre, en général, les forces de l'ordre ou le maintien de l'ordre, c'est pas nécessairement l'ordre auquel on pense. C'est vraiment l'ordre des choses actuelles.
C'est pas l'ordre dans le sens qu'il y a un bon fonctionnement puis que ça va bien, mais plus l'ordre dans le style qu'il faut que tu exécutes ce qu'on dit de faire.
Ouais, ben cette notion d'ordre-là, c'est l'ordre des choses telle qu'elle est. Je prendrais par exemple la Commune de Paris. Lorsqu'un nouveau pouvoir s'était constitué à l'intérieur de la ville, un pouvoir populaire, un pouvoir qui était enfin un ordre des choses citoyens, prolétaires même, si on veut. Ben, il a été massacré.
Les travailleurs au pouvoir.
Oui, c'est ça. Il a été massacré par Adolphe Thiers qui voulait rétablir l'ordre. Mais en fait, il voulait rétablir son ordre, l'ordre de la France qui a défaite face aux Prussiens. Là. Mais bon, bref.
Quand on parle d'ordre politique, c'est ça. D'ordre social, d'ordre économique.
C'est un mot qui est facilement malléable et très large et qui veut en dire beaucoup. Donc, l'ordre que doit maintenir la police, c'est l'ordre des riches, c'est l'ordre du pouvoir en place. Donc, c'est pour ça que la police est... puis c'est là que notre critique devient la plus violente en tant qu'anarchiste. C'est que la police est non seulement un régulateur social, mais c'est dans le fond la première source de répression de la dissidence. Puis son rôle, c'est de contrôler violemment le public pour protéger le pouvoir de ses réactions. Donc, le rôle de la police est entre autres de créer un contexte social qui va permettre au pouvoir de... continuer d'exercer ces injustices, puisque injustice, il y a. Puis quand on commence à dénoncer ces injustices-là, bien souvent, on fait face aux policiers. Puis c'est là que les arrestations deviennent des arrestations de masse. Puis je prends pour exemple la manifestation contre la brutalité policière, je crois, de 2002. Bien là, tout récemment, il y a les derniers accusés qui avaient été arrêtés. Il y avait une arrestation de masse, peut-être même plus de 200 personnes qui avaient été arrêtées. Puis ils ont presque tous été libérés sans poursuite. Ça, c'est une manière de voir qu'eux, ils souhaitent museler l'opposition, peu importe les moyens. Puis on se rend compte qu'ils ont des moyens de plus en plus technologiques et inventifs, notamment le taser, les flashballs. Etc., qui sont faites carrément pour s'en prendre physiquement aux individus, aux citoyens, citoyennes, sans nécessairement les blesser. Parce qu'aussitôt, bien sûr, qu'on les blesse, on parle alors de violence policière, mais c'est pas tout. Je veux dire, l'intimidation, c'est une violence policière. Le profilage, c'est une violence policière. Puis, je veux dire, les balles blanches, le taser, les lacrymogènes, c'est de l'utilisation abusive de la violence. Puis, je crois qu'elle ne se légitimise plus puis qu'elle n'a jamais vraiment pu se légitimer en dehors de maintenir le pouvoir en place.
C'est ce qui explique que le gros de la répression est faite envers les personnes les plus marginalisées et stigmatisées, comme les personnes qui vivent des problèmes de santé mentale, ou les Autochtones, ou les travailleurs.
Mais ça va être les premières victimes. C'est des gens qui sont énormément à risque vu leur statut précaire. Mm-hmm. Puis, en plus de ne pas avoir les moyens, on leur envoie les flics au cul. Parce que c'est des personnes qui ne sont pas désirables. Puis là, on va reparler des Jeux olympiques de Vancouver, mais c'est $1 milliard qui va être donné à la répression. Ça, c'est mettre des clôtures, vider les centres-villes des itinérants, enrayer les gens qui vont quêter. Je veux dire, ça, c'est de la répression qui est violente, c'est de l'abus de pouvoir, mais ça, c'est le pouvoir qu'il veut comme ça pour montrer la ville de Vancouver comme étant belle, saine, alors que je veux dire, Chris, on fait juste nier les problèmes sociaux, on les tasse. Ça a été la même chose à Montréal, ça a été la même chose en Chine. On s'est insurgé en Chine quand la police faisait de la répression. Mais quand c'est au Canada, c'est normal. Je veux dire, c'est des hosties d'Indiens, c'est des hosties de drogués ou des quêteux. Bref, je veux dire, c'est le pouvoir qui cherche à faire son ordre des choses. Puis, manifestement, la police est à ses bottes. Je veux dire, la police, c'est son bras armé. Donc,
C'était quoi la citation du chef de la fraternité des policiers?
Mais en fait, il y a le chef de la fraternité des policiers policières de Montréal qui a déclaré que la police devait fonctionner comme un organisme paramilitaire parce qu'en fait, c'est un organisme paramilitaire puis qu'il ne devrait pas avoir de police communautaire ou de rapprochement du genre. C'est vraiment, tu sais, coup de bâton après coup de bâton que ça devrait fonctionner. Bref. Mmh.
Ça, c'est la vision comme de la fraternité policière qui est en fait comme un syndicat de police. Là.
Ou encore comme une espèce de fraternité louche,
mafieuse
etc. Je veux dire, c'est pas parce que c'est des syndicats qu'il faut penser que c'est des gens de bien. On l'a vu avec certains exemples à la FTQ, entre autres. Bref, c'est assez drôle. Sinon, on pourrait continuer en parlant aussi de l'attitude des policiers en général. Puis je pense que la ville de Sherbrooke est un bon exemple pour ce qui est de... Je veux dire, on peut s'attendre en tant que payeur d'impôts, citoyen, pour prendre ça avec un brin d'humour, d'avoir un certain service de la part des policiers. Puis je compte plus les exemples où ils se font carrément insolents, désagréables, agressifs.
Méprisant.
Puis je veux dire, aussitôt, bien sûr, que tu cadres pas dans le j'ai plus de 50 ans, j'ai du fric, une famille, puis des assurances. Bien là, c'est difficile d'avoir de la part de la police un certain respect. Puis c'est pour ça qu'en général, faut pas hésiter à dénoncer un mauvais traitement de la part de la police, puisqu'il faut utiliser les moyens légaux qui sont à notre disposition pour s'assurer que ça se reproduise plus. Puis si ça fonctionne pas, ben là, je veux dire, on n'a pas le choix d'utiliser une certaine gradation dans les moyens de pression, puis j'exclus pas une utilisation de la violence. Mais là, je crois pas que la situation actuelle nous le permette, loin de là, je fais pas aucune apologie de la chose.
Moi, j'irais plus loin encore en disant que même si la police est bien respectueuse, je pense en fait que on peut pas parler d'état policier, mais plutôt d'un état répressif quand que les plus grands criminels sont au pouvoir. Si on parlerait d'un état policier où est-ce qu'on veut faire respecter comme les lois et les conventions internationales, ce qui serait un peu naïf de penser que ça se ferait, ben là, on pourrait peut-être parler d'état où est-ce qu'il y a la loi qui est appliquée. Mais non, présentement, en fait, la police sert juste à aller comme... arrêter les personnes qui font du droit commun, des crimes de droit commun, puis les personnes qui font des plus grands crimes, comme, mettons, les PDG qui volent des dents.
Les évasions fiscales.
Ouais, c'est ça. Fait que tout ça, tu sais, il n'y a pas vraiment de...
La pente est douce vers un état policier. Je pense notamment, je veux dire, ils ont de plus en plus une armure incroyablement technologique. Je pense à la France où les CRS ont vraiment une armure incroyable avec des outils de répression de foule qui ne cessent de se développer. Puis ça, je suis convaincu que c'est parce qu'ils le savent qu'il y a de plus en plus d'insécurité sociale qui se forme et qu'il y aura de plus en plus d'insatisfaction, qu'il y aura de plus en plus de violence urbaine et que ces gens-là, le pouvoir va souhaiter maintenir les injustices sociales. Et pour les maintenir, il y aura besoin d'un service de l'ordre, leur ordre, qui va pouvoir réprimer le plus efficacement possible ces foules-là. En Grèce, on vient de le voir tout récemment avec les émeutes qu'il y a eu. En France, on l'a vu à de nombreuses reprises. Puis ça va commencer à généraliser dans toutes les grandes villes occidentales. Montréal en a eu un exemple, puis je crois que c'est pas le dernier des exemples qui risque d'arriver. Puis d'ailleurs, tout de suite après la pause qui s'en vient, si on en a l'occasion, je dirais peut-être un article sur Montréal Nord qui explique entre autres pourquoi ça s'est passé, puis au nom de quoi on peut espérer que les choses aillent mieux dans ce quartier-là.
Rouge pour la vie.
Orange pour la fierté.
Jaune pour le soleil.
Vert pour la sérénité.
Indigo pour l'harmonie.
Violet pour l'esprit.
Découvrez toutes les couleurs de l'homosexualité et de la diversité sexuelle à l'émission Couleurs vives, tous les mardis à 22h sur les ondes de CFDX 95,5 FM.
Seriez-vous fatigué du froid hivernal? Eh bien, n'ayez crainte, car le croque-notcho reste au rendez-vous pour une hausse de chaleur. Sous les rythmes de la musique d'ici ou d'ailleurs, au cœur de l'actualité, ne manquez pas le croque-notcho tous les mardis soirs de 6 à 7 avec votre animateur Guillaume Genet sur les ondes de CFNX 95,5.
Oh,
CFLX présente en projection le premier album solo de Marie-Pierre Arthur. C'est sur une toile féminine et poétique que les chansons de Marie-Pierre Arthur, qui se définit comme une musicienne aux racines folk, se dessinent de façon rythmée et douce à la fois. On écoute un extrait.
Accroché en haut de mon toit, elle se moque de moi.
Entourée de plusieurs collaborateurs de renom, elle s'est inspirée de ses souvenirs personnels pour écrire cet album. Les sujets dont elle traite et le langage sont à la fois intimistes et rassembleurs. Marie-Pierre Arthur, un album qui vous entraînera dans un monde chaleureux et familier.
CFNX 95,5 FM, la radio communautaire de l'Estrie.
This is a DJ Underground exclusive.
La justice nique sa mère. Le dernier juge que j'ai vu avait plus de risque que le dealer qu'on a.
Pour qu'on puisse dire notre mot.
On fait ses décisions, on passe à l'action. Fuck la répression, fuck la soumission. C'est le big payback sur les favos qui t'arnaquent. Ceux qui traquent ton dos, qui passent à coups de matraque. On le fait pas sans but derrière nous, le vécu. Chaque bataille, la rue, lâchez ton la vue. On l'a fait pour nos frères, si bien sous terre. Envoyé en enfer par une bavure policière. Contre la réalité est loin d'être un roman policier. Pour la sécurité publique, nous
minorité contrôle la population. Shoot en premier après poser question. Manifestation, opposition, situation critique. Matraque, les bottes, débat, c'est l'SS pas tactique. Scandale, baveux, trop chiens sont corrompus sans parler. La popo raciste qui patrouille dans nos rues. Le quartier en cité, on espionne la misère. CV et empressé pour tes intérêts monétaires. Que tu voles, que tu révoltes, que tu deals. Au plus du pot, y'aura toujours des cochons pour défoncer ta porte. Pour Lisotte, Griffin, François, puis Bernabé. Trop sont tombés sous la force de la brutalité. C'est toujours les mêmes histoires, le sang coule encore. Ils savent se réveiller face aux abus de pouvoir.
Une première apparition pour cette track. Et je rencontre les cochons qui font bien plus que m'empêcher de tailler mon nom. Expérience dans leur service car il s'agit de tricher les gifs. C'est leur nouvelle griffe, fascisant la police. Arrestation, passons sur leur victime. C'est leur piste, que c'est pas de péter la gueule de tous ceux qui résistent. Police de crise, d'extrême droite, conformée sans diffumer. C'est pas un crise de cop, tu faisais comment vivre ma vie. J'ai passé ma jeunesse à être traqué, m'attraquer pour avoir exprimé mes idées. Bomber les murs de mon quartier, la crise est SQ. Progresse avec des dénonciateurs, micro dans l'ascenseur. Filature, saute à son bavure, camouflé par sa grandeur. C'est pas vrai que j'ai peur de personne à part d'un port. Quand il porte son uniforme, parce que derrière lui, y'a encore plein de gossettes qui se promènent avec leur gun. Fuck that. Shoot à Babylon.
Opposition, on passe à l'action. Fuck la répression, fuck la soumission. C'est big payback sur les favos qui tapent. Ceux qui traquent ton go, qui passent à coup de maître. On le fait pas sans but derrière nous, le vécu. Champ de bataille, la rue, la chaise, on l'a vu. On l'a fait pour nos frères, six pieds sous terre. Envoyés en enfer par une bavure policière. L'État se pique la cause à Nostra. Qui ont comme but de contrôler la société au pas pour ça. Ils font des chiens gardes en chaque coin pour qu'on respecte leur loi imposée. Ils engagent des assassins pour payer, dénoncer. Le monde n'a pas fini de payer. C'est la crise de marde. Leur slogan servirait protéger dès l'enfance. Ils peignent noir chez les kids à l'école. C'est sûrement pour ça qu'ils ont encore le monopole. La police est dangereuse, il faut que le monde le sache. C'est pas normal quand les sirènes sonnent, il faut que le monde se cache. Pour mettre une fin à brutalité policière, faut pas se laisser faire, faut répliquer de la même manière.
On passe à l'action, fuck la répression, fuck la soumission. C'est le big payback sur les favos qui tapent. Ceux qui traquent ton go, qui passent à coups de maître. On le fait pas sans but derrière nous, le vécu. Champ de bataille, la rue, la chaise, on l'a vu. On l'a fait pour nos frères, six pieds sous terre.
We strike you back on ya.
On vient d'écouter Cavalier Noir avec la chanson Sévère et opprimé. Juste avant, c'était DJ Cut Killer avec la chanson Nick la police. Dû à un chat dans la gorge, notre chroniqueur spécial s'est volatilisé. Je devrais donc le substituer par la lecture en direct d'un communiqué, d'un article qui s'appelle Montréal Nord, quartier sous les verrous, qui a été écrit par Narges Mustapha. Qu'on avait reçu à l'émission La Rage du Peuple lors d'une entrevue sur le groupe Montréal Nord République. Donc, c'est un article assez court que j'ai pris, en fait, qu'on a pris dans le journal Le Couac. Donc, je vais vous en faire la lecture dès maintenant. Les événements qui ont suivi l'assassinat de Freddy Villanueva à Montréal-Nord le 9 août 2008 n'avaient rien d'inattendu pour quiconque connaît les conditions socio-économiques dans lesquelles est confinée la population du district nord-est de cet arrondissement. Les chiffres sont éloquents, particulièrement lorsqu'ils sont comparés au reste de l'île. À Montréal-Nord, le revenu moyen par famille est de 20 000 $ inférieur à la moyenne montréalaise. En outre, 40 % de la population vit sous le seuil de la pauvreté, 50 % plus élevé que Montréal. Près d'une famille sur trois est monoparentale, comparativement à un sur cinq à Montréal, et on compte beaucoup plus d'adolescentes avec des enfants, 45 pour 1000 contre 28 pour 1000. On peut aisément déduire que ces indicateurs de précarité sont plus élevés encore dans le district nord-est de l'arrondissement, un immense quadrillé de blocs, appartements, qui ne manque pas de rappeler Bratislava. Une grande part de la population nord-montréalaise est captive, c'est-à-dire qu'elle n'a pas les moyens d'échapper à la spirale de l'endettement, les loyers élevés, la stigmatisation sociale et d'un phénomène de sauve-qui-peut qui pousse les moins malchanceux à lever les voiles dès que l'opportunité se présente. Dans bien des cas, restent ceux qui n'ont pas les moyens de partir. Malgré tout, la nature a horreur du vide et la zone rouge c'est-à-dire un territoire dont le contrôle appartient aux gangs de rue rouges, les Bloods, par opposition aux zones bleues, les Crips. Malgré tout, la nature a horreur du vide et la zone rouge, oubliée sinon caricaturée par la société québécoise, a développé sa propre culture sous l'impulsion notamment d'une nouvelle génération métissée qui n'adhère ni aux critères d'une tradition canadienne-française ni à celle d'une culture d'origine en ce qui concerne les familles immigrées, Haïti, Liban, Honduras, etc. Pour elle, l'hybridité de la culture hip-hop, par exemple, renferme bien davantage un bagage de référents qui correspond au quotidien. La fertilité de l'underground s'étend bien plus loin que la culture. Désormais, Montréal-Nord a aussi son économie informelle, ses propres lois non écrites, ses relations de pouvoir alternatives et même une nouvelle fraternité populaire. C'est cette fraternité répondant à celle des policiers qui s'est soulevée le 10 août. Lorsque Jean-Loup Lapointe a enfilé ses gants noirs et est descendu de la voiture de patrouille pour régler le compte de Freddy Villanueva, les témoins directs de l'intervention, ses amis proches et des membres de sa famille, ont immédiatement rapporté leur version des faits à la communauté. Le bouche-à-oreille a fait ses œuvres et a vaincu localement la version policière colportée par les grands médias, se livrant même à des affirmations du type « Entouré par une vingtaine de personnes hostiles, un policier n'a eu d'autre choix que de dégainer son arme et faire feu. » Imperméable à la science-fiction officielle, les résidents du district nord-est ont explosé de colère et cette rage était telle que la bavure ne saurait dès lors demeurer impunie. L'exclusion qui génère une société parallèle à Montréal-Nord, c'est aussi un système politique clientéliste héritier de l'ère Ryan, ancien maire de la ville avant la fusion de 2002. Depuis, la mainmise sur l'arrondissement est plus subtile. On affame les groupes communautaires devenus serviles et apolitiques. Les héritiers de Ryan se sont aussi appliqués à la gestion scrupuleuse de leur image de bienfaiteur dans les médias. Ainsi, après les émeutes, une firme de communication est engagée pour contrôler les dommages politiques que les émeutes pourraient infliger à l'arrondissement. C'est une citation d'un article de la Gazette. Solidarité Montréal-Nord, selon le communiqué de presse émis le 15 août, regroupe les organismes communautaires et les principales institutions dont l'arrondissement de Montréal-Nord, le service de police de la ville de Montréal, PDQ 39, et le CSSS, communiqué envoyé sur CNW. Bref, une nouvelle étiquette pour la même petite clique qui constitue le pouvoir effectif de l'arrondissement et qui verrouille l'accès au système officiel de répartition du pouvoir. À Montréal-Nord, concertation rime avec cooptation. Cet exercice de relations publiques qui visait à limiter les dégâts dont la clique locale porte la responsabilité aurait sans doute réussi n'eût été de l'intervention de Montréal-Nord République venue mettre en lumière à la fois les tentatives de subterfuge et exiger une véritable justice suivie à la bavure du 9 août. Depuis, il semble que petit à petit, l'immuable édifice de l'establishment, basé sur l'accoquinement et l'anesthésie populaire se fissure progressivement. La cinquième revendication de Montréal-Nord République demande la reconnaissance du principe que tant qu'il y aura des insécurités économiques, il y aura insécurité sociale. C'est-à-dire que la bataille afin que justice soit faite pour Freddy Villanueva a aussi lancé une guerre à finir contre les matraqueurs de la démocratie, ceux qui portent l'uniforme ou les autres en cravate. C'était une lecture d'un article de Narges Mustapha intitulé « Montréal-Nord, quartier sous les verrous » paru dans le Couac en mars 2009.
Pierre-Joseph Proudhon, qu'est-ce que le gouvernement? Dans « Idées générales de la Révolution au 19e siècle ». Être gouverné, c'est être gardé à vue, inspecté, espionné, diriger, légiférer, réglementer, parquer, endoctriner, prêcher, contrôler, estimer, apprécier, censurer, commander, par des êtres qui n'ont ni titre, ni la science, ni la vertu. Être gouverné, c'est être à chaque transaction, à chaque mouvement, noté, enregistré, recensé, tarifé, timbré, toisé, coté, cotisé, patenté, licencié, autorisé, admonesté, empêché, réformé, redressé, corrigé. C'est sous prétexte d'utilité publique et au nom de l'intérêt général, être mis à contribution, exercé, rançonné, exploité, monopolisé, concussionné, pressuré, mystifié, volé. Puis, à la moindre réclamation, au premier mot de plainte, réprimé, amendé, vilipendé, vexé, traqué, houspillé, assommé, désarmé, garrotté, emprisonné, fusillé, mitraillé, jugé, condamné, déporté, sacrifié, vendu et trahi. Et pour comble, joué, berné, outragé, déshonoré. Voilà le gouvernement, voilà sa justice, et voilà sa morale. Et il y a parmi nous des démocrates qui prétendent que le gouvernement a du bon. Des socialistes qui soutiennent, au nom de la liberté, de l'égalité et de la fraternité, cette ignominie. Des prolétaires qui posent leur candidature à la présidence de la République.
CFLX 95,5 FM, la radio communautaire de l'Estrie.
Multiplions les manifestations.
l'antichrist arrive, on ne sait même pas où aller. Représenté par Jeff, mes descendants de Douané. Tout protège son accueil, y'a UPI et Nénard. C'est la panique totale, freestyle, de criminal. Y'a plus de justice que de hustlers, qu'une époque triste, toxique. Et combien de cops, puff, puff, give. La panique de roi démontré non dépendance au système. Qui aime la bête, n'en est jamais rassasié qui traîne. Et tape les gestes comme néophyte en Babylone. Au salaire minimum, plan aluminium. Sur les cadres qui m'étonnent, esclaves qui vivent de rhum. Qui après minuit dans bam bam, millennium. Si la vie est si belle quand elle précède la mort, les familles se réunissent, brûlent le ciel pour qu'elle apporte. Le range auprès de Dieu, moi les ailes au-dessus de la morgue. Oh, là les ailes de Bordeaux. Car trop de familles déchirées d'enfants battus, martyrisés. Je veux le pouvoir s'immiscer, puis je veux des noirs divisés. Peut-être frissit ton texte, si ton écrit, si boulette, que si bon, oui, si l'on est voué, l'on bat, et non, oui, c'est bien.
La perte des Antilles, mon clan brille en tant que les gens qui y ont anéanti le pouvoir d'autrui en 1804. Black and proud to be, je vise les gens aptes à reconnaître qu'aujourd'hui c'est camouflé. Mais faut pas soucier, car nous sommes associés. Y'a du peu d'à côté sur moi, si la charge est lourde. Un coup de main ou bien avant le compte à rebours. On part de haut. 1. Reconnais ta force, black ta rage. Pense bien à où est-ce que tu es la mort. 2. Baisse jamais la tête, c'est de la planète. Fais ce que t'as à faire avec, de A à Z. 3. Reconnais d'où tu sors, donne beaucoup de support au crew qui pour toi se fout de la mort. À bout de tes forces, t'as besoin de tes alliés. Effacer le mal et aller devant le vent, c'est s'allier.
Mon cap manqué me dégâts. Quand pense ou pas qu'on aime moi t'es con. Ouais, besoin de l'elma. Quand on tape ouais, bon gros coco, yeah. Ou tape manger mango. Couillant pas comme coto, yeah. Mais ouais, j'en anglo. Sac point. Non pas ça reconnaître accent. Rop ma chérie, bêtise, ça fait une miaque pour absent. Pas les français, vos classes, l'école, billets, créole, montrer. Famille, la caille, ouais, bien mêlée, c'est comme la carte montée. Bouche ou senti, ouais, pas menti. Haïti, ou t'es con manger, couillant, et t'es lenti. Mais sky plein la net. Geste comme fait carrette, pas gay comme fait marée. Chaque jour, manger farine à clète. Comprendre ma pensée.
Avancer, avancer.
Camper, vin, ouais, ça que passé.
Avancer, avancer.
Ou comprendre ma pensée.
Avancer, avancer.
Haïtien.
Pas indispensable à la prospérité du capital. On ne nous les servirait pas partout, toujours, à coup de fric, à coup de flic. n'était pas le meilleur antidote contre nos grèves et nos révoltes. On ne nous la scènerait pas à tous les coups, à coups d'assemblée syndicale. N'était pas si propice à l'extension du marché. On ne nous le parachuterait pas en casque bleu, sac de riz à la main, mitraillette à l'épaule. Faire parler, à nous faire taire. On maintient l'ordre à coups de sabre. On lâche la bride à la flicaille. On lâche la bride à la flicaille.
L'Afghanistan, moi je te laisse le Pakistan.